Le journal Loïc Barrière. De nouvelles manifestations aujourd'hui en Iran. Les militants anti-régime ont reçu le soutien du président Joe Biden. 40 morts, c'est le dernier bilan de l'explosion dans une mine en Turquie. Le salon de l'alimentation se tient jusqu'au 19 octobre à Paris-Nord-Villepinte. Un pavillon libanais a été installé. Entretien avec Philippe Adem, cofondateur de Fairtrade Lebanon. 2 ans après l'assassinat de Samuel Paty, des hommages seront rendus ce week-end à l'enseignant décapité par un islamiste à Conflans-Sainte-Honorine. Enfin, la pièce Hakima, 5 juillet 1962, je me souviens, est jouée lundi soir à Stein, jour de l'anniversaire de la répression du 17 octobre 1961. Pour nous en parler, le dramaturge et comédien Mohamed Kaki. En Iran, nouvelle journée de manifestation à l'appel de militants anti-régime, un mouvement de contestation déclenché par la mort de Mahsa Amini. Le slogan de ce samedi était « Le début de la fin du régime ». Selon Amnesty International, au moins 23 enfants ont été tués lors de la répression exercée par le régime iranien contre les manifestants. Et des manifestants qui ont reçu le soutien de Joe Biden. Le président américain affirme que les États-Unis sont aux côtés des citoyens et des courageuses femmes d'Iran. En Turquie, l'explosion dans une mine de charbon a fait au moins 40 morts et 28 blessés. Un nouveau bilan communiqué par le ministre de l'Intérieur. Le drame s'est déroulé dans la ville d'Amasra. En Irak, le courant du dirigeant chiite Muqtada Sadr refuse de participer à un gouvernement dirigé par le premier ministre désigné. Il s'agit de Mohamed Shia El-Soudani, nommé par le nouveau président irakien Abdelatif Rachid. L'élection du chef de l'État et la désignation d'un premier ministre interviennent après un an d'impasse politique en Irak. Le Salon international de l'alimentation se tient du 15 au 19 octobre au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte. Un pavillon libanais est sur place. Parmi les personnalités qui sont au rendez-vous, Philippe Adem, cofondateur de Fairtrade Lebanon.
Aujourd'hui, le CIAL reste un des plus grands salons de l'innovation agroalimentaire où plus de 7500 exposants, mais également 300 000 visiteurs passent, des gens qui sont dans le business. La dernière édition avait généré 2,5 milliards d'euros de transactions. C'est vous dire l'importance de ce salon. Pour le Liban, après tout ce que nous connaissons, tout ce que nous entendons, tout ce qui se passe dans ce pays, nous avons voulu, à Fairtrade Lebanon, placer le Liban comme un pays producteur de produits gourmets, de produits de qualité, ramener avec nous des entrepreneurs, des industriels libanais qui ont fait des innovations, qui ont de beaux produits du Levant à proposer, et donc de replacer le Liban sur cette carte internationale des producteurs de produits de qualité.
Vous le soulignez, ce salon et la présence du Liban. Au sein de ce salon intervient alors que le Liban subit une très grave crise économique, notamment.
Le Liban subit sa plus grave crise économique dans son histoire récente, depuis sa création de l'État libanais. Nous avons perdu en 3 ans l'équivalent de 92% de la valeur de notre monnaie. Elle a complètement dévalué. Les banques au Liban sont en cessation de paiement et notre banque centrale a fait faillite. Et c'est pas moi qui le dis. Le Liban a été donc, par les agences Moody's et compagnie, déclaré comme un État en défaut, qui a fait défaut de paiement. Donc nous sommes un État failli aujourd'hui. Et il est très important pour nous de donner, de l'espoir à ces entrepreneurs libanais que tout n'est pas fini. Au contraire, nous avons beaucoup de choses à proposer et que le secteur privé, en collaboration avec notre secteur public, eh bien, pourra collaborer à ce que le Liban se relève dans une logique économique de développement, dans une logique économique de production.
Parce que vous êtes un lien entre les producteurs locaux défavorisés et les marchés étrangers.
Absolument. Fairtrade Lebanon est une ONG qui fait du développement. Nous ne sommes pas dans l'humanitaire, nous sommes dans le développement économique local. Nous faisons exclusivement de l'agroalimentaire, tout ce qui est agriculture et transformation alimentaire. Nous accompagnons agriculteurs, petits producteurs, PME, PMI, à rendre leurs produits aux standards internationaux. C'est ce qu'on appelle un accès. Nous proposons un accès aux standards ainsi qu'un accès au marché. Et donc, le CIAL représente un modèle de ce qu'on appelle un accès au marché à travers des salons que nous organisons, que nous faisons également financer par des agences internationales, des groupements comme USAID ou USMEPI ou parfois l'AFD, ça dépend des bailleurs de fonds. L'idée étant de promouvoir la production et les échanges économiques.
Justement, l'utilité de ce développement économique local, elle est particulièrement importante aujourd'hui au Liban.
Absolument. Le Liban a prospéré comme un pays de services où le gros des entreprises font du service, ce qui est très bien, hein, le système bancaire libanais, l'éducation, l'hôpital. Mais nous avons laissé de côté les secteurs productifs, à savoir l'agriculture et l'industrie, pendant des années. Les Libanais se contentant de négoce, ce qui est très bien, je le redis, mais en temps de crise aujourd'hui, comme aujourd'hui, on voit les limites de ce modèle. Fairtrade Lebanon, depuis sa création en 2006, a toujours travaillé, poussé les gens à la production, parce que nous pensons que c'est vraiment dans la production qu'on va installer d'abord une certaine autonomie financière, une certaine sécurité alimentaire pour le pays, qui ne se fait pas uniquement par un modèle d'importation et de vente, hein, de négoce. Et c'est cela. Notre slogan, c'est « Trade, not aid », c'est-à-dire que le slogan du commerce équitable, c'est faire de la vente, des transactions économiques et non pas de l'aide et de la subvention aux gens. Et notre boulot, notre travail, c'est de mettre en contact, de proposer un accès au marché à des produits, à des producteurs libanais, en garantissant, bien évidemment, la qualité et les standards des produits.
Et quel état des lieux faites-vous aujourd'hui concernant la sécurité alimentaire au Liban ?
Alors, c'est très compliqué. Aujourd'hui, dépendamment des différents rapports que vous avez, on sait que 70 à 80% de la population libanaise vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est les Nations Unies qui ont publié ce rapport-là. C'est triste, c'est terrible. Et bien sûr, nous avons de grandes peurs de ne pouvoir subvenir à cette population qui n'a plus les moyens de se nourrir. C'est une réalité. Après, ce que nous contestons, c'est que le Liban devienne, et les Libanais deviennent, un peuple d'assistés. On veut bien, et c'est bien, de soutenir des groupements alors très vulnérables, mais en proposant également autre chose, c'est-à-dire de systèmes de production, de systèmes de travail, où ces personnes-là vont se mettre à la production. C'est-à-dire qu'au lieu de leur donner du blé, nous, ce que nous cherchons à faire, c'est de soutenir des efforts de plantation et de mise en travail de ces gens-là sur la production des produits les plus demandés pour une nourriture de base.
Philippe Adem, cofondateur de Fairtrade Lebanon, il répondait à François-Xavier de Calonne. À Tunis, des incidents hier entre la police et des manifestants après les funérailles d'un jeune homme décédé cette semaine. La personne décédée avait été grièvement blessée en août à l'issue d'une course-poursuite avec la police. Lors des incidents dans la capitale tunisienne, les policiers ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Le discours du roi du Maroc hier, à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire, Mohamed VI a annoncé un programme national prioritaire de l'eau pour faire face à la sécheresse la plus intense qu'ait jamais connue le royaume depuis 30 ans. En France, la grève a été reconduite sur les 5 raffineries de Total Énergie. Plusieurs sites comptent poursuivre le mouvement jusqu'à la journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle prévue mardi. Une grève à laquelle appellent la CGT, Force ouvrière solidaire et la FSU. Le premier prix Samuel Paty a été décerné aujourd'hui à des collégiens à la Sorbonne. Demain, jour de l'anniversaire de la mort de l'enseignant tué par un islamiste, un hommage aura lieu à 18h devant le collège où il exerçait à Conflans-Sainte-Honorine. Un hommage est prévu aussi au square Samuel Paty à Paris, un square inauguré en 2021. La pièce Hakima, 5 juillet 1962, je me souviens, de Mohamed Kaki, sera jouée pour la première fois lundi soir à Stains, jour de l'anniversaire de la répression meurtrière de la marche des Algériens, le 17 octobre 1961, en pleine guerre d'indépendance. Une pièce qui est pour son auteur Mohamed Kaki l'occasion de parler du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. On l'écoute.
La création, nous venons de la... On est en train de la terminer avec le metteur en scène, Mousse Zouaïri, excellent comédien. Et donc, la pièce de théâtre s'appelle toujours Hakima, 5 juillet 1962. Nous allons la jouer donc ce lundi 17 octobre à Stains, au conservatoire de Stains, conservatoire municipal. En fait, c'est une fresque qui parle à la fois du 17 octobre 1961, qui parle de l'indépendance de l'Algérie, la fameuse joie qu'ont eu les Algériens ce 5 juillet 1962, lorsqu'il y a eu l'indépendance. C'était une formidable joie, mais aussi... elle parle des travailleurs algériens en France, de l'après-indépendance, c'est-à-dire après 62, les travailleurs algériens et leurs enfants surtout ici, et notamment le rapport à l'école, etc. Donc c'est une vraie fresque de vie, avec évidemment des moments très drôles, parce que dans ce drame, il y a des moments tellement dramatiques que ça en devient drôle, notamment avec ce qu'on appelle les déclassés, c'est-à-dire que cet instituteur qui revient d'Alger, qui était à la pêcherie d'Alger, qui avait la belle vie et qui revient ici en France et qui retrouve ce qu'il appelle les enfants de Felaga. C'est-à-dire les gens qui avaient 8 ans dans les années 65-68. Et donc, il va y avoir un croisement à la fois de nostalgie et de grand malheur pour cet instituteur, et puis de grand malheur aussi de ses enfants. Mais en même temps, il y a des moments assez drôles. Mais surtout, il y a une belle énergie, parce qu'il y a de la résistance, c'est-à-dire... toujours avec cette force de exister, résister, marcher debout, toujours debout, parce que le 17 octobre 1961, c'est d'abord une formidable résistance de nos parents, et c'est un hommage à nos parents qui ont résisté, qui sont tenus debout. La colonisation a forgé les corps, a tenté de les courber, mais ce jour-là, qui est un jour d'exception, ce jour du 17 octobre 1961, eh bien, il y a un refus de se courber, et donc les travailleurs algériens, c'est-à-dire nos parents, eh bien, ils se sont mis debout, des femmes et des hommes. Parce qu'il faut rappeler que c'était une manifestation pacifique, donc à Paris, qui a rassemblé 40 000 personnes, et qui ce jour-là, eh bien, c'était le jour de la dignité, le jour de ça suffit, le jour dont on se courbera plus jamais. Et donc, voilà, c'est aussi une mémoire de transmission, avec notamment cette jeune fille qui s'appelle Jamilia et qui va interpeller. Donc c'est une interpellation de son grand-père. Le point de départ, c'est une interpellation de son grand-père pour lui dire « Mais où est cette quatrième sœur de ma grand-mère, la fameuse Hakima, dont on ne m'a jamais parlé et dont j'ai fait connaissance en vacances lors d'un séjour au village en Algérie ?» Et là commence le récit important, puisque le grand-père est réticent, il ne veut pas en parler, et finalement, elle va l'obliger en quelque sorte à parler, et du coup, il va commencer ce long récit, avec sous condition, puisque le grand-père va lui dire « je veux bien te raconter ce récit, mais sous deux conditions. » La première, c'est que cette histoire reste entre nous, et la deuxième, c'est que « Eh bien, je veux que tu sois la plus brillante des étudiantes de la Sorbonne. » Parce que pour ce grand-père, ce travailleur algérien, eh bien, faire des études, c'est important. Réussir des études, c'est important. Travailler, c'est important. C'est l'habitus des Algériens, le travail. Faire des efforts, travailler, se parfaire, c'est ça les Algériens de l'époque. C'est ça l'héritage qu'ils nous ont laissé. C'est d'abord des femmes et des hommes debout, des femmes et des hommes... des travailleurs qui sont toujours en train de se parfaire et qui ne sont pas des mendiants, Et c'est pour ça que c'est un bel héritage, ce 17 octobre 61. C'est pas seulement une victimation, c'est pas seulement un malheur, c'est aussi être debout, c'est aussi se battre, c'est aussi rester debout. Et c'est pour ça que c'est formidable à transmettre. Et puis c'est aussi la fête, puisqu'on se termine par la fête, on termine par la fraternité, on passe à autre chose. Et puis on se dit que ben, la musique c'est important et vraiment, c'est du passé, il faut en parler. Mais aujourd'hui on va regarder devant aussi avec cette fraternité entre tout le monde, parce que nous rendons hommage aussi à tous les Français qui ont été nos amis, donc France Fanon, Panigel, Kagan, Maspero, Vidal Naquet, Maurice Audin, Maurice Laban, Monique Hervault, Henri Allègre, René Vautier et tous les autres. Et donc également Jean-Luc Enaudi, où on lui rend un hommage important, parce que toutes ces femmes et tous ces hommes ont été importants dans la mémoire algérienne, ici en France, de ce que j'appelle les travailleurs algériens.
C'est important aussi d'aller voir cette pièce en famille, si on le peut.
Oui, absolument. C'est important de la voir en famille parce qu'il y a une transmission importante. Il y a aussi des témoignages, parce que à chaque fin de pièce de théâtre, on a un échange avec la salle et on demande aux gens ce qu'ils en ont pensé. Et évidemment, il y a souvent des témoignages. Il y a peut-être des fois des langues qui se délient. J'ai vu ça l'année dernière, où les gens commencent à témoigner devant leurs enfants, leurs petits-enfants, alors qu'ils ne l'ont pas fait auparavant. Et c'est pour ça que c'est important d'y aller en famille. Oui, oui, absolument. C'est un bon moment à vivre en famille.
Mohamed Kaki, dramaturge et comédien, sa pièce Hakima, 5 juillet 1962, je me souviens, est jouée le 17 octobre à Stains, le 19 à Villetaneuse, et le 22 à La Courneuve. Enfin, l'invité de la bibliothèque de Radio Orient, tout à l'heure à 23h, est Patrick Leyaric. Il publie « Les raisons de la guerre en Ukraine pour une sécurité humaine globale » aux éditions de l'Humanité. Rediffusion de cette émission demain dimanche à 19h. Cette édition est terminée. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.